à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique, toujours ma complice et réalisatrice, Tiphaine, et votre serviteur, André Satenza. Notre invité aujourd'hui, Thierry Stivanin, directeur de l'établissement Aide et Protection des Familles, vieille institution sur Toulouse et dans le département, institution créée en 1931. Nous y reviendrons sur l'histoire de cette institution avec Thierry Stivanin, notre invité. Thierry Stivanin est diplômé d'un CAFDES, diplôme de référence dans le secteur social et médico-social. Homme de terrain, vous avez dirigé une maison d'enfants à caractère social à Montauban, une maison qui fait référence, la Passarella, que vous êtes resté à la tête de cette institution une dizaine d'années. Aujourd'hui, à la direction Aide et Protection des Familles, institution qui est gérée par l'ANRAS, notre maison commune. Mais avant de démarrer sur aide et protection des familles, quelques informations dans le secteur. Le ministère des Solidarités et de la Santé, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de protection de l'enfance, a publié récemment une enquête sur les pratiques de participation collective des enfants dans les établissements. On appelle cela communément la démocratie sanitaire. La démocratie ne s'arrête pas aux portes de nos établissements ni aux portes de nos associations. 70 départements ont participé à cette enquête. 236 structures ont répondu avec un taux de retour de 78 maisons d'enfants qui ont renseigné cette enquête. Je peux peut-être vous donner les quelques éléments saillants, monsieur Thierry Stivanin. 42% de ces institutions déclarent ne pas avoir mis en place le CVS, le Conseil de vie sociale, qui a peut-être d'intérêt, peu attractif, difficile à mettre en place pour recueillir la parole des enfants. Il y aurait donc peut-être peu de démocratie dans ces institutions. Est-ce que les professionnels seraient partagés sur cette problématique? Monsieur Stivanin, vous qui êtes un connaisseur, comment faites-vous pour collecter le verbatim des enfants? Cela semble compliqué. Est-ce que la démocratie, je le dis encore une fois, est mise à mal? Ou ces nouvelles pratiques qui émanent de la loi de 2002, nous sommes en 2021, pourquoi cette inertie? Ou alors, vous allez me rassurer, il y a d'autres possibilités de recueillir la parole des enfants. Bonjour, monsieur Stivanin.
Bonjour, monsieur Atenza. Merci pour votre invitation et la mise à l'honneur des services de milieu ouvert, et notamment donc celui de l'aide et protection des familles. Concernant la participation des familles et des enfants, la particularité des maisons d'enfants et du secteur judiciaire, c'est que nous sommes évidemment dans une recherche d'adhésion et de recherche de consentement de la part des personnes qui y sont accueillies, avec néanmoins une particularité par rapport aux sanitaires ou médico-social, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de mettre conformément à la loi de 2002 des CVS avec un président qui serait un parent ou un enfant. Voilà. Par contre, nous n'avons pas à nous soustraire quant à la démocratie sur les établissements et les services. Mais il est vrai qu'il est particulièrement complexe dans certains cas de mobiliser les familles qui ont vécu le placement comme étant une injonction et donc une séparation des enfants vis-à-vis d'elle, et que l'adhésion est particulièrement complexe, en tout cas au début. Et il y a une autre problématique qui peut être relevée, c'est que il y a peu d'associations de parents dans notre secteur de la protection de l'enfance, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de leader réel qui pourrait collecter les informations et parler au nom des parents, ce qui fait qu'y compris sur les établissements, bien évidemment que les travailleurs sociaux sont en lien avec chacun et chacune des parents, mais on ne peut pas, on n'arrive pas, si vous voulez, à les coopter pour que certains représentent d'autres. Voilà, ce sont des choses qui s'organisent. Alors, quand je dis ça, j'ai pris ces précautions oratoires, mais dans les faits, il y a plusieurs sortes de réunions et de collectes de positionnement des enfants et des familles. Donc je pourrais énoncer assez rapidement le fait que il y a des CVS, c'est-à-dire des rencontres régulières, parfois plusieurs fois par trimestre, entre la direction et les enfants et les professionnels. Quelques familles se déplacent, mais on ne peut pas dire qu'elles représentent les autres familles. Elles viennent pour être attentives, porter la parole de parents, mais sans qu'il y ait un collectif derrière. Et ensuite, concernant l'établissement que je dirige, puisque ce sont des enfants qui restent auprès de leur domicile, il n'y a pas donc de notion de collectif. Nous adressons systématiquement, et ça c'est dans le cadre aussi de la loi de 2002, nous adressons des enquêtes de satisfaction qui font que nous avons au moins un retour, c'est une démarche qualité, sur ce qu'elles pensent et ce qu'il faudra réaliser dans un second temps, puisque je suis à l'APF depuis un an maintenant, c'est travailler sur la mouture de l'enquête de satisfaction avec des membres de la famille, c'est-à-dire les personnes qui ont l'autorité parentale. Voilà. Mais déjà, l'enquête de satisfaction, c'est 3-4 pages, et nous avons un certain nombre de retours qui nous permettent d'appréhender et de repérer...
Et de modifier, de repérer...
Et de repérer,
soit dysfonctionnement, soit satisfaction pour continuer le travail. Oui. Nous rentrons dans le vif du sujet, l'éducation en milieu ouvert, et on va essayer d'expliquer à nos auditeurs, c'est très complexe le métier que vous faites, M. Stivanin. Il y a des juges, il y a l'ASE, c'est le département, il y a des mesures administratives, il y a des mesures judiciaires, il y a beaucoup de sigles. Je vous demanderai au cours de cet entretien de décliner chaque fois les sigles pour la compréhension et un peu de pédagogie pour nos auditeurs d'Esprit Occitanie. Mais commençons déjà par la création. Vieille institution créée à Toulouse en 1931. Pouvez-vous nous en dire un petit peu sur cette histoire ?
Oui, bien sûr. Ce bel établissement a été créé en 1931 à la suite d'une préoccupation majeure au niveau du tribunal, qui était de prendre en compte des enfants qui étaient maltraités. Et quand nous sommes dans ce milieu, nous savons que des enfants qui sont maltraités, qui vivent des carences éducatives, dont les préoccupations des parents, pour X raisons, ne les amènent pas à pouvoir éduquer avec suffisamment de bienveillance et d'attention ou de capacité, pour X raisons, des maladies, des fois, des accidents, de la vie, les enfants. Il y a, si personne n'est en soutien, un certain nombre de ces enfants deviennent des enfants délinquants. Voilà. Donc cette préoccupation par un des procureurs de Toulouse, avec des collègues et des amis, ont commencé à se mobiliser et créer cette association. Alors je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants évidemment de cette longue histoire, mais il y a eu la TPSF, ça c'était au départ, c'est-à-dire cette association toulousaine-là qui ensuite s'est transformée en AGOP, qui était l'association gestionnaire, voilà, qui avait pour objectif de laïciser l'ensemble des structures, établissements et services sur le département, et ensuite l'ANRAS qui a pris le relais de l'AGOP. On a toujours été dans cette association orientée vers ce que l'on appelle le milieu ouvert.
Alors il faudrait nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que quand on prend les sigles à EMO, action éducative en milieu ouvert, cela veut dire quoi concrètement ? Vous allez vers Vous allez dans les maisons, vous allez dans les appartements des enfants, vous les recevez au jardin. Comment vous faites concrètement?
Bon, la protection de l'enfance est issue d'une très très longue histoire où avant tout le clergé évidemment s'est préoccupé de ses enfants et des enfants qui ne pouvaient être pris en charge par les familles. Le clergé a, on va dire, inventé l'éducation spécialisée qui était se substituer aux familles qui ne pouvaient pas les prendre en compte. Et par définition, c'était le milieu fermé, c'était l'hébergement. Et l'AEMO, l'action éducative en milieu ouvert, que je vais préciser, c'est en parallèle par rapport à ce milieu fermé, des services qui interviennent, qui accompagnent les familles à partir de leur domicile, donc c'est-à-dire dans l'environnement de l'enfant. Et donc la TPSF a été un des premiers services sur le département qui s'est préoccupé de ces enfants et qui est allé vers ces enfants pour soutenir les familles plutôt que d'envisager d'entrer un placement des enfants type maison d'enfants.
D'accord. Alors aujourd'hui, vous accompagnez combien d'enfants? Si on rentre dans les chiffres de l'activité avec vos professionnels, on va essayer de décortiquer, décliner tout cela. Un millier d'enfants peut-être, plus?
Alors, nous intervenons sur l'ensemble du département. Peut-être qu'on y reviendra juste après.
On va y revenir, voilà. Oui, parce que vous jouez la proximité, me semble-t-il.
Bien sûr, donc on joue la proximité sur les territoires, ce qui fait que le chiffre est considérable. C'est pour ça que je faisais ce préalable-là. Nous avons 1222 mesures par jour. 1222 mesures par jour, ce qui...
C'est énorme.
Ce qui fait 393 470 journées sur l'année réalisées grâce aux 125 salariés qui interviennent.
Alors 125 salariés à l'APF, oui. Aide et protection des familles. Vous pouvez nous dire quelles sont les catégories, les grandes familles de ces professionnels? Vous avez quoi? Éducateurs, psychologues, assistants sociaux?
Alors on va dire les professionnels spécialisés de terrain, qui sont les éducateurs spécialisés, assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, qui interviennent principalement sur la EMO. Donc il y a d'autres autres services dont on parlera, je suppose, tout à l'heure. Ensuite, nous avons évidemment des responsables de services éducatifs pour accompagner ces équipes. Nous avons des psychologues qui sont des cadres techniques qui accompagnent dans la réflexion, dans le soutien au projet, dans la recherche de comment mobiliser la famille et comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de danger, ou le moins de danger possible dans l'environnement de l'enfant. Il y a ensuite les assistantes qui sont les secrétaires de chaque équipe. Nous avons évidemment ensuite des ouvriers d'entretien, nous avons également des agents d'entretien.
Donc toute une logistique pour accompagner l'action éducative.
Directrice adjointe, donc tout un panel de personnes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire pour accompagner au mieux ces enfants en danger.
Donc présent sur l'ensemble du territoire du département, présent sur le sud du département, vous êtes à Saint-Gaudens.
Oui.
Je crois que vous êtes également à Carbone, mais oui. Vous avez un projet pour aller ailleurs. Vous êtes présent à l'Union, à Saint-Jean. Vous pouvez nous dire comment vous organisez ce territoire à Colomiers? Je crois que vous êtes présent à Colomiers, on pourrait dire aujourd'hui la deuxième ville la plus peuplée. Comment cela est arrivé? Quel a été le souci et la proximité que vous avez voulu créer pour être présent dans ces lieux? Qu'est-ce qui a présidé, pourrait-on dire, à ce choix?
Alors, le site principal est le premier, donc c'est celui de Toulouse. Mais ensuite, les équipes devant intervenir au plus près des familles en se rendant à leur domicile. Évidemment que le territoire de la Haute-Garonne, comme le connaissons, est extrêmement allongé et éparse. Donc il y a nécessité de se déplacer, et de se déplacer plusieurs fois par semaine à certains moments dans certaines familles. Donc évidemment, quand nous parlons de Saint-Gaudens, il y a également le Luchonnet, hein, donc c'est encore beaucoup plus loin que Saint-Gaudens. Donc partant de Toulouse, évidemment, il nous fallait organiser le travail pour pouvoir répondre aux préoccupations des magistrats et donc nous de la mise en place d'une opérationnalité, on va dire, correcte. Donc, nous intervenons sur Saint-Gaudens, Carbonne, comme vous le disiez, M. Atenza, Colomiers, Saint-Jean, de Toulouse, nous intervenons sur le Lauragais aussi et nous sommes en projet pour développer un service sur ce territoire-là. Et donc, cette organisation a évolué dans le temps et à ce jour, nous avons regroupé deux gros services, le service d'AEMO et le service d'aide à la gestion du budget familial en équipe de protection de l'enfance. Donc, chaque site est organisé à partir de ces deux services réunis pour pouvoir être au plus près, certes, des familles, comme je l'ai largement indiqué tout à l'heure, mais aussi de tous nos partenaires, puisque les familles ne nous voient que très temporairement. Donc, il nous faut absolument, à partir de la décision du magistrat, ensuite orienter vers les services de droit commun, qui peuvent être l'aide sociale à l'enfance, qui sont les maisons des solidarités, mais qui sont aussi les associations culturelles, les associations en lien avec l'aide aux devoirs. Donc, il y a nécessité d'implanter systématiquement et d'accroître le réseau relationnel des parents et des enfants pour qu'ils prennent appui sur l'existant, sur leur commune.
Alors, comment ça se passe concrètement et la temporalité d'une mesure judiciaire ou éducative, vous suivez ces enfants et les familles un mois, deux mois, trois mois, une année, comment ça se passe? En moyenne, bien entendu, s'il y a des progressions, j'imagine, et que les situations peuvent s'améliorer.
Alors, nous rencontrons les familles déjà à partir d'une décision judiciaire. Le magistrat reçoit la famille suite à une convocation, il y a une audience et il est indiqué les motifs de préoccupation à destination de l'enfant. Il est aussi repéré dans ce champ-là les possibles pour les enfants et le soutien des parents puisque le magistrat a tout un panel d'orientation possible et lorsqu'il nous demande à nous d'intervenir, c'est-à-dire qu'il a mis à l'écart la question du placement.
Du placement. Donc voilà. Il refuse le placement, en tout cas pas pour le moment, il n'y a pas urgence.
C'est ça.
Et il souhaite utiliser les mesures administratives qui sont à sa disposition.
Alors, le magistrat ne prend que des mesures forcément judiciaires. Lorsque cette mesure arrive devant les magistrats, nous pouvons considérer que le département qui mène les mesures administratives a tout mis en œuvre pour pouvoir le gérer dans un cadre contractuel avec la famille. Du moment où ça passe devant le tribunal, le magistrat, évidemment, fait le nécessaire pour rechercher l'adhésion de la famille, mais au fond, il y a une injonction. Voilà, c'est-à-dire que le magistrat, sur une durée qui est plus ou moins longue, donc l'article 375 indique que cela ne peut pas dépasser 2 ans sur le premier jugement. Il est indiqué donc la durée, ça peut être 6 mois, 18 mois, c'est au magistrat d'apprécier. Et donc il indique le nom du service qui va intervenir.
Et à partir de ce moment-là, vos professionnels, psychologues, éducateurs, assistants sociaux, visitent l'enfant, visitent la famille plusieurs fois, comme vous dites, par semaine, et ils doivent donc, j'imagine, produire un rapport d'opportunité, donner les meilleures indications aux magistrats. C'est ça le travail concret.
Alors il y a deux types d'interventions chez nous. Il y a l'AEMO dite classique et l'AEMO renforcée. La particularité des deux, c'est que sur l'AEMO dite classique, les rencontres, on va dire en moyenne, sont d'une fois toutes les 3 semaines. Puisque chaque travailleur social a 28 enfants à prendre en compte. Voilà. Sur l'AEMO renforcée, ils ont 12 enfants à accompagner, avec en plus un étayage supplémentaire qui sont les éducatrices jeunes enfants et les TISF, donc les travailleuses en intervention sociale et familiale.
C'est un métier très féminisé ? Vous êtes
Un
en quoi
métier
que vous
très
êtes?
féminisé,
Oui.
effectivement. Il y a plus de 90% de dames qui interviennent et qui sont assistantes sociales et éducatrices
D'accord.
spécialisées, voire même psychologues. Il y a effectivement quelques hommes. Et donc, c'est selon, si vous voulez, le type de service, il n'y a pas le même apport. Puisqu'évidemment, il n'y a pas le même type de fréquence, puisque dans le cas de l'AME remboursée, il peut y avoir jusqu'à deux, trois rencontres par semaine
Par
quand c'est
semaine.
nécessaire.
Donc c'est quand même assez lourd comme travail. Je ferai juste un peu une sorte d'apprenti syndicaliste. Vous avez dit un travailleur social et 28 mesures, 28 enfants,
Oui.
c'est trop, c'est énorme, c'est dans la norme. Est-ce que vos professionnels vous disent que vous êtes un esclavagiste de l'action éducative renforcée ou que vous êtes plutôt un directeur tout à fait raisonnable et bienveillant à l'égard de vos salariés?
Alors, ce ne sont pas les directeurs qui déterminent le quota pour chaque travailleur social. C'est un budget qui est négocié avec le conseil départemental, puisque c'est un magistrat qui prend une mesure, mais c'est le conseil départemental qui finance.
Qui paye? Il y
Et
a des
la...
paradoxes, hein, dans cette affaire, hein. Il y en a un qui décide, l'autre qui, en fait, s'exécute. Et puis ensuite, nous qui faisons le travail. C'est du billard à trois bandes, pourrait-on dire.
Oui, c'est ça. Alors, il est vrai que ça ne simplifie pas forcément, quoique sur la Haute-Garonne, je veux dire, les échanges sont cordiaux et sont en lien, ou relativement en lien avec les besoins des enfants à protéger. Ce qui est, ce qui, on va dire, cette orientation-là, à tribande, comme vous disiez, c'est que finalement, le financeur, s'il devait lui-même prendre des décisions, pourrait faire attention au budget qu'il a consacré, si vous voulez, sur l'année. Un magistrat ne se préoccupe pas du budget, lui se préoccupe tout simplement du devenir de l'enfant, de sa situation, et fort heureusement d'ailleurs. Après, au conseil départemental, d'alimenter, de rechercher les ressources nécessaires. Donc effectivement, on peut ne pas forcément comprendre les choses, mais dans les faits, dans cette démocratie, finalement, c'est plutôt bien fait, hein, à ce niveau-là, puisque un magistrat, peu importe s'il ouvre 1 000 mesures sur l'année ou s'il en ouvre 1 500, ce
Son
sont des chiffres
intérêt,
peut-être qui ne sont
c'est
pas
l'intérêt
complètement
des familles
réalistes.
et des enfants,
Tout
c'est
à fait,
l'intérêt
tout à
majeur.
fait. Ensuite, à la République de trouver les
De trouver
moyens
les
pour
moyens.
faire face. Si ce n'est que pour répondre à votre question concernant le quota, moi, je trouve que 28 mesures, c'est trop pour accompagner des familles. Si c'est de l'observation, du diagnostic et donner des informations aux magistrats, ça pourrait être suffisant. Du moment où il nous faut être à côté des familles qui sont de plus en plus, séparées, réparties sur des territoires qui sont différents, puisque nous pouvons avoir une maman au centre de Toulouse et une autre sur Villefranche-Lauragais, mais ça peut être aussi dans l'Aveyron, par exemple. Donc il nous faut accompagner les deux parents. Donc là, honnêtement, 28 mesures, c'est beaucoup trop et il nous faudrait réellement descendre, oui.
Je vous propose, parce que je sais que vous aimez la culture catalane et hispanique, et comme nous sommes à esprit Occitanie, je vous propose d'aller du côté d'un grand chanteur qui a marqué et qui marque encore la culture catalane, Lluís Llach.
Anirem plegats si ets absent pels camins d'un petit país. Cantaré el teu nom clau del secret que em fa sentir-te fred de pell i així portar-te a mi si ets absent. I en Charlotte que del cel mira,
Toujours Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, en présence aujourd'hui de mon invité, M. Thierry Stivanin, qui est le directeur de l'établissement Aide et Protection des Familles. Nous avons évoqué avec lui les mesures dites judiciaires, le travail qui est réalisé par des professionnels sur l'ensemble du département, Colomiers, Carbonne, Saint-Gaudens, Saint-Jean, on ratisse, pourrait-on dire, politique de proximité, des solidarités actives dans la proximité. Nous avons parlé des juges, des magistrats. Nous continuons toujours sur cette enfance en danger, problématique de parentalité, carence éducative. J'imagine, M. Stivanin, que vous intervenez beaucoup quand les divorces se passent mal, parce que malheureusement, nous savons qu'un divorce, souvent, quand il y a des enfants, ils sont pris souvent en otage. On examine cela et donc le juge pour enfants, le juge qui gère les problèmes familiaux, doit intervenir et vous intervenez à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette problématique ?
Oui, alors nous intervenons auprès de toute famille, de tout milieu social, dont on va dire la notion de danger est avérée et repérée par le magistrat. Parmi effectivement ces notions de danger, il y a les conflits conjugaux à la suite de séparation et de divorce qui amènent l'enfant à se trouver dans l'entre-deux et à ne pas trouver de place pour pouvoir évoluer correctement.
Et donc, les signalements sont faits par qui quand ça se passe mal? C'est l'éducation nationale, ce sont les voisins? Pour identifier que l'enfant est en danger ou que les parents, pourrait-on dire, ne font pas le job de parents?
Alors, en grande partie, l'éducation nationale, évidemment, est en première ligne repérer le malaise des enfants. Il y a également ces enfants qui vont voir l'assistante sociale de l'école ou du quartier ou qui vont parler à l'animateur du club de sport et qui fait le nécessaire en appelant le 119 et en appelant le numéro vert du conseil départemental. Il y a également le voisinage et ce sont les trois orientations principales. Les familles aussi évidemment
parfois font
des alertes par le biais du juge des affaires familiales dans le cadre du de la procédure de divorce, le juge des affaires familiales peut complètement orienter une mesure en alertant son collègue juge des enfants.
Voilà. Je reviens sur, vous avez dit, classique, et vous avez parlé de cette question, et puis ensuite renforcer. Le renforcement, cela veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire vous mettez plus de moyens techniques, professionnels, des contributeurs, ou c'est une autre modalité d'accompagnement? Ou peut-être les deux?
Alors je vais répondre rapidement les deux, puisque il y a déjà les moyens humains qui sont conséquents avec une disponibilité beaucoup plus importante au vu du nombre d'enfants qu'ils accompagnent par rapport à l'AEM audite classique. Il y a également davantage de professionnels puisqu'il y a des soutiens aux référents éducatifs, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les TISF et les EJE. Il y a un travail qui est réparti sur l'ensemble de la semaine, mais y compris le samedi, alors que sur la MO classique, nous intervenons principalement du lundi au vendredi.
Mesure judiciaire, vous l'avez dit également, d'aide à la gestion du budget familial. Concrètement, mais peut-être que je vais provoquer M. Thierry Stévanin, on va apprendre aux pauvres à rester pauvres. Vous avez 1 000 euros, vous devez faire avec 1 000 euros. C'est ça que vous enseignez ou que vous allez porter? Mais je sais que ma question peut être impertinente, mais cela peut-être est nécessaire de l'aborder comme ça. Parce que quand je lis « mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget », inutile de vous dire que si j'ai un budget important, je peux mieux le gérer. Si j'ai un budget rikiki ou un budget contraint, peut-être que j'aurai des difficultés à éduquer mes enfants. Non. Je pose la question naïvement.
Alors, cette mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est inscrite dans le Code civil de l'article 375.9. Cette mesure est une aide aux familles au niveau de son budget et des prestations sociales qu'elle reçoit. Effectivement, ce sont des familles qui ont peu de moyens.
C'est-à-dire que les prestations sociales ne doivent pas être dévoyées, c'est ça le sens.
C'est ça, c'est-à-dire que certains peuvent avoir davantage d'argent, mais utiliser cet argent à d'autres fins que l'éducation des enfants. Alors il est évident que plus on a d'argent et plus il est facile de répartir sur les différents postes. Maintenant, lorsqu'on a peu d'argent, mais que l'État consent, même si les montants peuvent être bas, consent à donner des prestations familiales, ces prestations doivent aller à l'intérêt de l'enfant. Voilà. Et donc notre travail est de s'assurer que les familles obtiennent tous leurs droits. Et on sait très bien qu'en France, les personnes les plus démunies ne savent pas toujours se débrouiller pour aller se renseigner et aller faire entendre leurs droits.
Oui, alors vous avez raison, M. Stivanet, je dois rebondir sur cela, parce que souvent on entend une sorte de rumeur où il y aurait beaucoup de personnes dites indigentes qui utilisent l'argent, bien entendu, de la solidarité nationale, qui auraient des fraudeurs. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des fraudeurs en col blanc, ça s'appelle l'évasion fiscale. Mais surtout, ce qui est important, et il faut le pointer ici aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont des droits et qui ne les revendiquent pas. C'est ça le plus important. Qu'il y a des personnes qui ont besoin et qui pourraient aller au RSA et qui ne le font pas parce qu'elles se sentent humiliées. Mmh. Ou des personnes qui pourraient avoir des paniers repas et qui ne le font pas parce qu'elles ne veulent pas montrer que c'est très violent pour elles. La réalité, c'est peut-être celle-là.
C'est exactement cela. Une étude récente indique qu'au moins 25% des personnes ne vont pas solliciter les organismes, les dispositifs d'État pour récupérer leurs droits. Donc tout notre travail à nous, c'est évidemment de s'assurer que déjà les prestations arrivent bien au sein de la famille. Et ensuite, nous devons vérifier, puisque c'est une demande là aussi du magistrat, hein, c'est de repérer quels sont les différents postes financiers, comment c'est organisé, afin d'assurer dans un premier temps le logement pour l'enfant. Donc, nous sommes en lien avec les bailleurs, nous arrêtons dans bien des cas l'intervention des huissiers, hein, puisque nous proposons rapidement un échéancier dans le temps, nous allons demander des subventions ou des prestations complémentaires pour pouvoir réduire évidemment le déficit, en tout cas le manque à gagner, hein, constant de la famille. Et ensuite, nous les accompagnons physiquement, c'est-à-dire pour faire toutes ces démarches. L'objectif de toutes ces mesures, c'est de ne pas prendre la place des familles. Ces familles sont extrêmement respectables, bien évidemment. Elles ont l'autorité parentale concernant leur enfant. Et il n'est pas possible que l'enfant puisse repérer quelqu'un qui demanderait à la mère ou au père telle ou telle chose, qui donnerait des injonctions. L'objectif, c'est de faire avec. Alors, il est vrai que dans certains cas, c'est une minorité, il y a nécessité de prendre des décisions afin de protéger l'enfant, parce que les parents sont dans des situations où ils ne voient plus ce qu'ils provoquent auprès de l'enfant.
Vous restaurez du droit, en définitive.
Tout à fait.
Là où il n'y a pas de droit, vous restaurez du droit et vous mettez en place le milieu ordinaire pour que ces personnes continuent à être des citoyens à part entière.
Oui, puis nous construisons avec les familles des outils extrêmement pratiques, hein, le tableau de budget, des agendas, la liste des démarches à faire pour qu'elles puissent connaître les gens, faire les démarches.
C'est vrai que parfois, il y a un maquis administratif dans notre pays.
Hein. Oui, c'est extrêmement complexe puisque, en plus, les organismes renvoient sur tel ou tel autre, dans telle ou telle situation. Donc ça demande une grande spécialisation que nos professionnels ont, d'autant qu'en plus d'être conseiller en économie sociale, sciences sociales ou éducateur spécialisé, ont une formation complémentaire et des formations tout au long, on va dire, de leur carrière en lien avec leur expérience pour être au plus près de ces méandres et faire face aux côtés des familles.
Autre activité importante dans le cadre de l'APF, aide et protection des familles, établissement géré par l'ANRAS, depuis 2020, vous gérez un dispositif innovant de maraude dite mixte, métropole, toulousaine, le département, vous-même. Expliquez-nous cette maraude mixte, parce que j'ai l'impression en effet que quand on parle d'enfants en danger, eh bien dans notre région, dans la métropole, on a constaté, je pense que c'est évalué assez clairement, qu'il y a beaucoup d'enfants dans les squats. Et comment est-ce possible, une ville comme la nôtre, au XXIe siècle, encore des enfants et des familles à la dérive dans des squats?
Nous avons depuis 2020 effectivement créé à la suite d'une préoccupation nationale donc, et d'un plan qui a été lancé en 2018, qui est le plan stratégique de prévention et de lutte contre la pauvreté, un service, petit service, mais qui a de grands effets avec deux travailleurs sociaux, du temps de psychologue, de responsable de service et de secrétaire. Notre travail étant d'intervenir auprès des enfants qui sont à la rue. Donc dans les squats, dans les campements, dans les tentes que l'on peut voir sur les boulevards en ville, effectivement la pauvreté est extrêmement présente sur la métropole, mais en France de manière générale. Alors il est vrai que les gros centres urbains attirent forcément une population puisqu'il y a éventuellement possibilité de demander l'aumône, donc il se rassemble notamment sur Toulouse. Il y a de nombreux squats, effectivement, et c'est dans ces lieux que nos professionnels vont tous les jours.
Voilà. Tous les jours. Et ils apportent quoi exactement ? Leur mission concrète ?
Alors, la particularité de cette maraude mixte, c'est qu'elle est ancrée dans le champ de la protection de l'enfance. Ce qui n'est pas le cas pour les 18 autres maraudes qui ont été créées au niveau national. D'où l'intérêt que ce soit l'aide des protections des familles hein, qui interviennent, c'est-à-dire qu'on a un regard plus particulier sur ce que peut vivre l'enfant. C'est-à-dire qu'on a une habitude d'évaluation, de la notion du danger, d'accompagnement des familles pour que les enfants soient soutenus dans les meilleures conditions. Tout notre travail, c'est de restaurer les droits. Là aussi. Alors, il y a un certain nombre de familles, évidemment, qui proviennent de pays étrangers et qui sont dans un entre-deux, j'ai envie de dire, dans l'attente
Dans l'attente de l'obtention de papiers pour régularisation, carte de
C'est
séjour,
ça.
autorisation pour pouvoir travailler, c'est cela la
C'est
situation.
ça, c'est ça. Et ils sont dans l'entre-deux, ils ont fui leur pays pour diverses raisons, et les enfants ont suivi ou sont nés sur le territoire. Et donc tout notre travail étant de faire en sorte qu'au niveau administratif, on puisse sortir de cette jungle-là, j'ai envie de dire. Ensuite, les amener à accéder à des logements, ce qui n'est pas toujours des plus
Et
simples.
une scolarité,
Et
peut-être.
ensuite, évidemment, faire en sorte qu'ils puissent vivre comme tout autre enfant et leur laisser la possibilité d'avoir la meilleure chance possible par le biais, évidemment, de l'école de la République.
Quand on parle de maraude mixte, mixte, ça veut dire quoi? Protection de l'enfance et dispositif du plan national contre la pauvreté. Voilà, cette notion de mixte, ça renvoie à quoi? Mixte parce qu'il y a plusieurs interventions, c'est-à-dire l'État et le département. Voilà, cette notion de mixte, ça renvoie à quoi?
Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre exactement
Non.
à cette question. Pour moi, la maraude mixte, c'est comme vous le disiez en dernier cas, c'est-à-dire que c'est une mobilisation de l'État, du département et de la
Et de la
métropole.
métropole. Et l'ensemble de ces acteurs s'entendent pour financer l'ensemble du dispositif. Est-ce qu'on sait combien d'enfants sont aujourd'hui dans les squats? C'est 150, 200. Est-ce qu'on a une petite évaluation pour voir les dégâts de notre métropole? Vous avez
Non,
une idée?
non, je n'ai pas de repère précis. Plusieurs centaines, ça oui.
Plusieurs centaines, ça c'est oui.
150, ça me paraît bien peu.
D'accord.
400, c'est peut-être une fourchette encore basse, me semble-t-il. Il est difficile de les repérer de toute manière et de comptabiliser le nombre d'enfants, puisque par définition, ils sont dans des lieux qui ne sont pas toujours recensés. Y compris par l'État ni par les associations, et ils changent très régulièrement justement pour continuer à rester sur le territoire.
Parce que pour certaines familles, peut-être doivent-ils également quitter le territoire, donc elles se cachent, quoi. D'où la difficulté de l'évaluation. Je sais, Monsieur Thierry Stivanin, que vous êtes également investi au niveau des départements régionaux, à la CNAP, hein, que vous êtes très actif. Expliquez-nous ce que c'est que la CNAP également et ce que vous y faites. Et déjà, déclinez le cycle. Alors, vous vous souvenez, convention, c'est ça. D'aide à protection de l'enfance. Ce n'est pas une question piège, vous le savez, mais on essaie de faire de la pédagogie pour que l'ensemble de nos auditeurs d'Esprit Occitanie aient une connaissance aiguë de ce secteur.
Bon, la CNAP, c'est une fédération qui regroupe de très nombreuses associations qui œuvrent dans le champ de la protection de l'enfance élargie.
Donc c'est vraiment une association de mouvements politiques, c'est-à-dire ils essayent de porter la parole et des intérêts des associations pour le bien évidemment des enfants de la protection. Donc, ils organisent des plaidoyers, ils sont présents quand il y a des campagnes électorales. Donc, c'est le militantisme de la gouvernance, dirais-je.
Oui, avec un lien plutôt direct avec différentes instances on va dire, proches bon, du gouvernement, mais aussi des hauts lieux de réflexion, j'ai envie de dire, puisque quand il y a un repérage particulier sur le plan technique, il y a des préconisations qui sont faites à destination des associations, mais évidemment aussi des travailleurs sociaux. Par exemple, sur la notion d'évaluation, sur la notion de prise en compte. comptes, de respect, de soutien des familles. Donc, ils ont une, y a un investissement effectivement de cette fédération qui est extrêmement importante et qui est déclinée depuis quelques petites années, 2-3 ans, sur les départements, ce qui permet à l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance de se retrouver par ce biais-là et de réfléchir, proposer, parce que notre objectif, il n'est pas de construire une corporation pour être contre je ne sais qui et quoi, mais plutôt pour faire des propositions et faire en sorte que des dispositifs dans lesquels on n'arrive pas à prendre en compte des enfants et des familles pour les plus complexes, qu'on puisse trouver des biais pour organiser les choses entre nous, évidemment avec l'accord du magistrat et du conseil départemental.
Acteur majeur, quand M. Adrien Taquet, qui est notre ministre, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, propose une loi. Bien entendu, la CNAP propose des amendements, rencontre les députés et les sénateurs, font de la communication, donc ce qu'on appelle aujourd'hui communément le lobbying. Ces amendements, c'est un acteur fort et crédible auprès des pouvoirs publics, on peut
tout
le
à
dire
fait,
aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Je vous propose d'aller Cabo Verde, Cesarea, Évora.
Cabo Verde já espera te, mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus que está travida pelo manda um passeio nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho de tormento. Cabo Verde já espera-te, mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus que está travida pelo manda um passeio nesse cantinho Cristo de mim, nesse cantinho de tormento. Minha fé, minha esperança é de vai para longe, é de vai para terra grande, terra de felicidade. Cabo Verde já espera-te, mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus que está travida pelo manda um passeio nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho de tormento. Minha fé, minha esperança e na Deus contei, e na Virgem Maria que está nascendo e na terra. Minha fé, minha esperança e na Deus contei, e na Virgem Maria nascer e na terra.
Esprit Occitanie, de nouveau avec vous, sentinelle d'humanité, et toujours Thierry Stivanin, directeur d'aide et protection de famille. Nous avons présenté les dispositifs, nous avons présenté la relation avec les juges pour enfants, les magistrats, le travail avec le département, nous avons parlé, bien évidemment, de la proximité pour être au plus proche de ces familles en difficulté. Nous avons parlé des maraudes. Et il faut peut-être parler aussi de l'ambition, M. Thierry Stévanin, que vous avez pour votre établissement. Parce que quand je vois cette institution qui est en plein mouvement, création de 4 équipes, création de modalités nouvelles, une antenne à Colomiers exemplaire, création d'une antenne à Saint-Jean, 11 équipes, 120 professionnels, dispositif des maraudes, c'est le succès, monsieur Stivanin. Vous allez vous arrêter où? Donc la prochaine fois, c'est quoi? Nouvelle création, nouvelles équipes, innovation? Et de quelle innovation parle-t-on alors?
Alors cette association...
Parce que vous avez des professionnels de grande qualité autour de vous, on peut
oui,
le dire.
Bien sûr, bien sûr. Ce sont des professionnels qui sont extrêmement engagés et qui ne faiblissent pas, si vous voulez, face aux difficultés que peuvent rencontrer les familles dans une société qui n'est pas toujours des plus simples pour eux et pour elles. Alors, nous intervenons effectivement sur l'ensemble du département, il y a 11 équipes. Ces 11 équipes, j'y ai participé il y a de cela quelques années, lorsque j'étais cadre sur l'APF. Néanmoins, ces dernières années, nous devons, on va dire, la création de ces dispositifs, notamment d'AEMOR, à mes prédécesseurs et puis à notre directeur général, au conseil départemental et à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour faire en sorte que nous puissions avoir les moyens en lien avec la compétence que nous avons au sein de cette belle institution. Les projets sont nombreux pour la suite. Et d'abord, ce serait de finaliser, on va dire, en termes de cartographie, les créations des différents services d'AEMO renforcés qui ne sont absolument pas présents encore sur notamment le territoire de Colomiers. Sur le Lauragais, nous prévoyons, le conseil départemental, nous avons une réunion dans peu de temps, essayer de voir à quel moment nous pouvons déménager une équipe de Toulouse pour aller sur le Lauragais, créer une équipe d'AEMO renforcée. Et puis, j'ai quand même aussi cette interrogation par rapport à ces familles qui sont les plus en difficulté et qui habitent le Grand Toulouse, où effectivement on a deux associations qui interviennent aussi en AEMO et qui sont la SP2A et la Sauvegarde 31, qui elles interviennent dans le cadre de leur service d'AEMO renforcé sur Toulouse. Néanmoins, il y a largement la place pour nous, l'APF, pour aussi créer ces services d'AEMO renforcés. Puisqu'il y a peut-être 150 places d'AEMO renforcées rien que pour le Grand Toulousain, alors qu'on en a 144 rien que pour le pourtour, nous, voilà, sur les trois services existants. Donc il y aurait nécessité, me semble-t-il, d'ouvrir 3-4 services d'AEMO renforcés sur la métropole de Toulouse, mais également la loi de 2007 a orienté les politiques publiques vers... une intervention en amont du judiciaire. Quand le juge intervient, c'est-à-dire qu'il y a déjà un peu de privation dans tous les cas. C'est-à-dire que la question de l'autorité parentale, même si dans les textes, elle est largement maintenue auprès de la famille, n'empêche qu'à n'importe quel moment, un magistrat peut prendre des décisions. Et si nous pouvions intervenir en amont d'une décision judiciaire, qui est dans bien des cas nécessaire, donc en amont et pour des âges un peu plus jeunes pour les enfants, nous pourrions être dans des mesures que l'on appelle contractualisées. Et sur la politique nationale, a mis en place des actions éducatives à domicile, qui en fait sont des mesures éducatives comme l'AEMO, mais contractualisées, c'est-à-dire avec consentement de la famille, approbation et donc mobilisation, sans la crainte que le magistrat puisse à n'importe quel moment intervenir. Et ça, nous pourrions imaginer sur l'APF la création de l'AED dite renforcée. Donc, c'est-à-dire avoir des moyens pour intervenir du lundi au samedi si nécessaire, avec peu de mesures pour pouvoir faire ce travail-là, parce que plus nous intervenons en amont et plus c'est administratif et non judiciaire, plus je pense qu'on laisse des chances à la famille et aux jeunes de s'insérer sans être stigmatisés.
Les politiques sociales du département de la Haute-Garonne, je pense que vous les vous les considérez comme tout à fait correctes, voire ambitieuses, et vous avez des bonnes relations, me semble-t-il, avec les équipes et fonctionnaires du département en appliquant ces politiques. Au niveau national, avec ce que vous venez de dire, il y a peut-être la possibilité. La lecture que vous faites aujourd'hui, c'est plutôt positif. Ça va dans le bon sens comme professionnel, d'abord sur le département et ensuite sur le national.
Alors, il y a la question évidemment des quotas dont nous parlions tout à l'heure, qui reste pour moi en tout cas un problème, même si par ailleurs les nouveaux dispositifs qui ont été créés ont des moyens nettement plus confortables. Donc, moi, de ma place et en lien en tout cas avec le conseil départemental de la Haute-Garonne, on peut dire que l'équipe de la direction Enfance et Famille est extrêmement attentive à... au soutien des plus démunis. Alors bien sûr qu'il serait nécessaire qu'il y ait davantage de moyens, mais ces dernières années en tout cas, il y a eu pléthore de services créés avec des ambitions qui amènent à ne pas forcément placer, même s'il y a eu davantage d'accueil sur les maisons d'enfants. Mais en amont, il y a eu ce que l'on appelle les placements à domicile, c'est-à-dire des jeunes qui auraient pu être placés et qui devaient être placés normalement
dans une maison d'enfants,
il y a de cela 3-4 ans. Maintenant, grâce au PAD, ce placement à domicile, les enfants sont placés, mais à domicile. Ce qui est un peu étonnant, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, le service est habilité avec les orientations du magistrat à prendre une décision instantanée de protection immédiate de l'enfant.
C'est-à-dire sortir l'enfant de son milieu naturel.
C'est ça. D'ailleurs, ces équipes-là ont cette capacité d'accueillir très rapidement sur les maisons d'enfants, dont elles dépendent d'ailleurs, ces enfants pour revenir aussitôt du moment où le danger a été, on va dire, atténué, voire éliminé. On sait très bien qu'il y a certaines soirées, des parents peuvent être dans des situations psychologiques ou d'addiction, ou tout simplement une effervescence au niveau d'un couple qui fait que nous intervenons aussitôt, mais qu'il y a parfois nécessité d'extraire temporairement l'enfant pour qu'il puisse y revenir et qu'on puisse retravailler les choses. Mais il y a ensuite eu, évidemment, les AEM renforcés dont on parlait tout à l'heure, qui, en se déployant comme ça, évidemment, limite l'hébergement et ce que l'on appelle le milieu fermé, entre guillemets.
Monsieur Stivanet, nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir présenté complètement l'ensemble des dispositifs. C'est très compliqué, l'éducation. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de dire autre chose qu'important, qui nous aurait échappé, qui mérite une attention particulière pour nos auditeurs avant de se quitter?
Nous avons des métiers passion et nous sommes extrêmement engagés auprès d'une population qui vit des contraintes avec des enfants qui subissent beaucoup. Pour moi, il me paraît extrêmement important de se rapprocher de ces organismes, de voir le travail qui s'y fait. Et je fais un appel à tous les aux étudiants qui sont en recherche d'orientation. Nous sommes sur un département où nous embauchons beaucoup actuellement et où il nous paraît nécessaire, si vous voulez, d'accueillir des professionnels qui ont de l'attrait pour ces missions de protection de l'enfance. Donc oui, voilà, je fais appel.
Un appel à des professionnels.
À des professionnels pour venir travailler avec nous.
Il faut envoyer le CV à l'APF, à M. Thierry Stivanet. On va accueillir, oui, il y aura sur ces territoires des professionnels de haut niveau et avec des belles compétences. Monsieur Stivanet, merci infiniment pour votre intervention et merci pour le travail que vous réalisez avec vos équipes de l'APF, que vous pouvez les saluer à mon nom. Et à très bientôt, Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité. Eh bien, chers auditeurs, à la prochaine.
Merci, Monsieur Tenzaro.